J'ai vraiment plaisir donc à me retrouver à nouveau devant vous pour cette prédication. En fait, on est sur une prédication qui est une deuxième partie. D'accord ? La première partie a été traitée par Colin. C'est sur le panorama de l'Ancien Testament. Et je vous rappelle que l'objectif de ce panorama, c'est vraiment de parcourir l'Ancien Testament, alors succinctement, afin de voir à quel point l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont connectés. On n'a pas un Ancien Testament qui parle d'un Dieu et le Nouveau Testament qui parlerait d'un autre Dieu qui serait complètement différent. On voit bien un seul et même Dieu, un seul et même Sauveur, un seul et même Esprit dans la globalité de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Et j'aime beaucoup cette phrase de John MacArthur qui nous dit « Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus signale « Regardez, tout l'Ancien Testament parle de moi. » Puis il montre à ses deux disciples tout ce qui le concernait dans la loi, les prophètes et les saintes écritures. L'Ancien Testament préfigure Christ. Les évangiles l'incarnent, les actes le proclament, les épîtres l'expliquent et l'Apocalypse le glorifie ou l'exalte. Et je me dis que ça peut être vraiment intéressant pour nous de se rendre compte que toute la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. C'est important de pouvoir aller chercher dans l'Ancien Testament également à quel point le Messie nous est révélé. On voit ce verset d'Actes chapitre 4, versets 11 et 12, qui nous dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est vrai aujourd'hui pour nous, et ça l'était déjà dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et si le salut de tous se trouve en Jésus-Christ, depuis toujours et pour toujours, si de tout temps les hommes ont été sauvés par ce nom de Jésus-Christ, cela signifie qu'il y avait forcément des révélations en ce qui concernait le Messie dans l'Ancien Testament. Si on regarde certaines caractéristiques des hommes que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament, on retrouve bien entendu des caractéristiques particulières, des caractéristiques de ces personnes qui ont été parfois des prophètes, parfois des princes, parfois des rois, des libérateurs, des personnes qui se sont sacrifiées pour les autres. Mais toutes ces nombreuses personnalités qui ont été citées dans l'Ancien Testament sont des personnes qui étaient imparfaites. Elles préfiguraient Christ, effectivement, mais elles avaient des défauts. Et seul Jésus est le sauveur parfait. Seul Jésus est venu sauver définitivement celui qui le reçoit. Il y a tellement de passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent du Messie, qui prophétisent sur le Messie, qui nous montrent des aspects du Messie, qu'il serait vraiment difficile pour nous de tout passer en revue. Il faudrait reprendre la totalité de l'Ancien Testament et nous n'avons que 30 minutes. J'aimerais donc aujourd'hui qu'on s'attarde plus particulièrement sur trois passages de l'Ancien Testament. J'aimerais donc qu'on passe en revue ces trois textes qui sont dans Michée, chapitre 5, versets 1 à 4, ainsi que Zacharie, chapitre 9, et Zacharie, chapitre 6. Dans Michée 5 et Zacharie 9, on va voir particulièrement l'annonce de l'entrée du Messie dans le monde, par sa naissance, et aussi l'annonce de l'entrée du Messie dans la ville de Jérusalem. Et dans une deuxième partie, on verra l'annonce de sa mort et de son règne en tant que roi prêtre. L'annonce en cette période de Noël de la naissance de Jésus est quelque chose qui se fait souvent, bien entendu. Et j'aimerais vraiment qu'on reprenne donc ce passage de Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. On va voir quelques éléments dans ce passage. Ce n'est pas celui sur lequel je vais passer le plus de temps, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne des éléments qui sont des détails marquants de cette prophétie. Donc, je vous propose de prendre Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Et j'encourage ceux qui sont sur Zoom aussi à prendre la parole de Dieu et à pouvoir prendre le temps de chercher ce passage de Michée 5, verset 1. Je vais aller jusqu'au début du verset 4. Donc, je commence au verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Certaines versions, notamment la Bible du Semeur, donne ici celui qui régnera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. En fait, on voit ici plusieurs éléments qui sont présentés dans ce texte. Dans ces éléments, je vous les ai synthétisés par un tableau. Au verset 1, on voit cette notion d'humilité. La ville de Bethléem est une petite ville. On n'est pas dans une grande cité. Et cette petite ville, cette naissance dans une petite ville montre l'humilité de ce Messie. On voit aussi toujours dans le verset 1, avec ce passage, qui dominera sur Israël ou qui régnera sur Israël, selon les versions, on voit ici la royauté du Messie. Dans le verset 2, lorsque l'on regarde, c'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, on voit qu'il y a une souffrance qui précède le salut. Il y a un temps d'épreuve, puis vient le salut. On voit aussi, toujours dans ce verset 2, l'unification. Le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il nous est donné, à partir du verset 3, des attributs du Messie. Il les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. On voit aussi ce qui nous est donné ici, c'est l'étendue de son action. Sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Certaines versions donnent jusqu'aux confins du monde. Et enfin, début du verset 4, cette notion de paix, son œuvre de paix, c'est lui qui ramènera la paix. Et en fait, c'est quand même très étonnant, c'est encourageant de voir que dans ce petit passage, on voit déjà tellement d'éléments qui nous en disent long sur le rôle du Messie et qui nous donnent un détail d'importance qui a dû, je pense, interpeller certains des Hébreux, des Israélites qui, étant contemporains de Jésus, savaient qu'il venait de Bethléem. Cette prophétie nous donne le lieu de sa naissance. Et je me dis que c'est quand même quelque chose d'absolument fantastique. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit en fait que Dieu révèle de très nombreuses choses sur son plan de salut, sur le Messie et sur l'œuvre qu'il aura à accomplir. Cette unification, cette œuvre de paix, le fait de remettre ensemble tous les peuples sous sa royauté. Dieu a toujours présenté les éléments qui étaient nécessaires à sa communion avec son peuple. Et cela se révèle encore davantage dans ce passage de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Et d'ailleurs, on va voir ensemble que cela présente certains parallèles avec Michée, chapitre 5. Donc, je vous propose de le prendre à tous. Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Je commence donc la lecture au verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » On va présenter un petit peu ce passage. Alors, des différentes recherches que j'ai pu faire, vous savez bien entendu que je suis très très loin d'être un spécialiste de l'hébreu, mais j'ai pu creuser un peu, j'ai pu aller chercher des choses sur ce passage. Il semblerait que ce passage soit composé en hébreu de 6 vers qui représenteraient dans son style la forme la plus pure de la poésie hébraïque. Il y a un effort particulier qui a été donné pour la mise en forme de ce passage. On voit d'ailleurs une structure en chiasme, vous savez, je vais vous la faire apparaître. Tout d'abord, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Et aussi, à la fin, « Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du géographique. On commence à Jérusalem et on finit jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, lecteurs du Nouveau Testament, ça doit nous rappeler des choses sur le mandat missionnaire que nous avons reçu. En Actes, chapitre 1, verset 8, « Soyez mes témoins à Jérusalem, Judas, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, on voit qu'on part de Jérusalem et on va jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, vient le roi qui est victorieux, le roi qui, qui fait quelque chose, c'est qu'il pacifie le monde autour de lui. Il est juste et victorieux et il donne sa paix. Et enfin, plus étrange, mais on va revenir sur cette partie-là, cette comparaison, cette notion qui est plus de l'ordre de l'animal, avec d'un côté l'âne sur lequel est monté Jésus, et de l'autre côté les chars et le cheval. Si le texte est mis en forme de cette façon, avec cette beauté-là, ça veut dire que nous, on peut voir aussi, on peut se demander quelle est la beauté que contient le sens de ces paroles. Quand on regarde un petit peu aussi, je vous ai mis encore en parallèle, au niveau de l'entrée dans Jérusalem, on voit aussi une notion d'humilité. Le Christ est humble. On voit aussi cette notion de royauté. Il est clairement dit, ton roi vient à toi. On voit cette notion de la fin de la guerre qui est donnée par la destruction des armes de guerre. Par le fait qu'on a un roi qui annonce sa paix aux nations. Donc l'œuvre de paix, qui est au verset 10, est présente ici aussi. On voit donc, comme je le disais, cette réunification des peuples, et donc notamment cette réunification des peuples qui va concerner, on le voit dans ce texte, Éphraïm, Jérusalem, et là aussi on va revenir là-dessus. On voit des attributs du Messie qui nous sont donnés ici. Il est humble, juste et victorieux. Et aussi l'étendue de son action qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce passage. Je trouve qu'il reflète vraiment bien les différentes facettes du Messie. On a un Jésus qui est à la fois humble, mais ça n'enlève rien en fait qu'il soit complètement victorieux. Quand on regarde les termes « fille de Sion » et « fille de Jérusalem », ça parle des fidèles de l'alliance qui était donnée par Dieu. Alors bien entendu, ces termes devaient parler absolument aux Hébreux de l'époque lorsqu'ils ont reçu cette prophétie. Mais ils nous parlent aussi à nous d'une façon particulière aujourd'hui. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Et ce texte, est donc puissant pour nous aujourd'hui, en ce qu'il nous révèle de nombreuses choses sur notre Messie. Le terme « soit transporté d'allégresse » signifie littéralement « manifester sans retenue sa joie ». On est dans une société, d'accord, où on a cette bonne éducation, ce vernis, et rarement on manifeste sans retenue notre joie. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes déjà retrouvé en public et que vous avez laissé exploser votre joie sans aucune retenue. J'avoue que quand on est en société, on essaie de se retenir un peu. On essaie de faire attention. Ben là, non. Manifeste sans retenue sa joie. Et en fait, c'est utilisé aussi dans la Bible, dans différents passages dont je vous donne ici les références pour que vous puissiez les chercher. On voit que ce terme « soit transporté d'allégresse » est utilisé quand on parle de l'œuvre divine, quand on parle de la restauration d'Israël, quand on parle de la délivrance des ennemis et du règne de Dieu. Ce PowerPoint, je peux l'envoyer à tous ceux qui le souhaitent. Il n'y a aucun problème, ça me fera très plaisir. L'expression qui est donnée ensuite « pousse des cris de joie ». C'est une expression d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre des Nombres, au chapitre 10, verset 7, ainsi qu'en Josué, chapitre 6, verset 5. Et c'est un terme qui est utilisé souvent pour désigner un acte bruyant, un acte qui est accompagné du corps, C-O-R. Nous qui avons participé à cette étude biblique sur Gédéon, on sait l'effet que peut avoir le bruit du corps sur, là c'était sur les Madianites, d'accord ? Et en fait, c'est vraiment quelque chose de bruyant, quelque chose de sonore, quelque chose qui enflamme. Et c'est utilisé pour acclamer la présence de Dieu. C'est un signal pour la guerre et pour la délivrance. Et en fait, l'expression ici nous appelle à exprimer notre joie, à faire même exploser notre joie, parce qu'il y a l'œuvre de Dieu. Faire exploser notre joie pour sa présence, pour la restauration qu'il nous offre, pour sa délivrance, pour sa victoire et pour son règne. En tant que chrétien aujourd'hui, on a l'espérance de la vie éternelle avec Dieu, car la victoire a été acquise par Christ à la croix. Et je me suis posé la question, est-ce que je me réjouis vraiment pleinement de cela? Est-ce que je réalise toujours, complètement, ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Est-ce que je manifeste sans retenue ma joie? Est-ce que j'acclame Dieu? Est-ce que je proclame la délivrance qu'il m'a apportée. Est-ce que le fait que ces prophéties se soient réalisées, que Jésus est venu au monde, qu'il est entré dans Jérusalem, sachant pertinemment ce que cela allait lui coûter, est-ce que cela réveille en moi une joie profonde? Est-ce que j'ai envie de sonner du corps afin que l'on m'entende de partout, jusqu'aux extrémités de la terre, pour que je puisse annoncer cette vérité, cette merveilleuse nouvelle? La période de Noël n'est-elle pas propice à l'annonce de cette merveilleuse nouvelle? Notre Messie est juste et il est victorieux. Il a vaincu à la croix. Et j'aimerais vraiment que ce matin, nous finissions ce culte avec cette joie sincère par le rappel de la venue et de la victoire sans appel de Christ. Quand je dis victoire sans appel, c'est parce qu'il n'y a pas de contestation possible. Il n'y a pas de recours devant la Cour suprême pour contester la victoire de Christ. Toute référence à des événements s'étant passés il y a peu serait purement fortuite, bien entendu. Jésus-Christ est roi, et cela est sans appel. Peut-être pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, peut-être pour vous qui n'avez pas pris cette décision de le suivre, je vous encourage vraiment à regarder ces passages, à lire ce qui est écrit ici, et à vous rendre compte que le Messie a fait cette œuvre pour vous et qu'il vous appelle ce matin. Et peut-être pour vous qui êtes chrétien depuis plus longtemps et qui parfois avez tellement l'habitude d'entendre ce que Jésus a fait qu'on finit, et moi le premier, par ne plus être aussi sensible que nous le devrions à l'annonce de cette nouvelle. Rappelons-nous ce matin la joie que nous avons éprouvée à notre conversion lorsqu'on nous a annoncé que Christ était victorieux et qu'il pouvait l'être dans notre vie. Ce passage nous dit que le Messie est juste. Et on sait que dans l'Ancien Testament, être juste était une des qualités requises pour être roi. Jésus était juste non seulement par sa conduite sur cette terre, mais aussi il est déclaré juste par sa capacité à faire régner la justice. Et le règne qu'il a, le règne que nous vivrons aussi dans l'éternité, sera un règne de justice. Le fait de le décrire comme humble nous montre aussi que le Messie n'a pas de prétention à renverser les puissances politiques, contrairement à ce que les Israélites espéraient quand on leur a annoncé la venue d'un Messie. Ils se sont dit « le Messie va renverser l'oppresseur romain ». Mais non, le Messie est humble. Il n'a pas vocation à renverser les puissances politiques. Son action va avoir une portée spirituelle et morale. Et là, on vient enfin à cette notion animalière dont je vous ai parlé, l'âne et le cheval. Le fait de rentrer dans Jérusalem sur un âne est le signe de la royauté. Pour nous, aujourd'hui, un âne, on se dit que c'est un animal un peu bête. D'ailleurs, on l'utilise quand on compare peut-être quelqu'un qui nous semble un peu bête, on dit « c'est un âne ». Mais là, c'est un signe de royauté. C'est ce qui se faisait jusqu'au temps du roi David. À partir du roi Salomon, le cheval est arrivé et les rois ont commencé à se déplacer sur un cheval, mais jusqu'au roi David. L'âne, c'était le signe de la royauté. Et en fait, ça nous rappelle que le Messie est de la lignée de David, conformément aux prophéties qui nous ont été données dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi une opposition au roi qui rentrait dans une ville à cheval. Le cheval était utilisé à la guerre. C'est une arme de guerre. C'était pour les conquérants. Ici, le Messie n'arrive pas en conquérant. Ce qui n'amoindrit, bien entendu, en rien son caractère victorieux. Mais il arrive sur un âne. Il annonce un règne de paix, pas de guerre. Il ne vient pas pour écraser, mais il vient pour relever. Il ne vient pas pour asservir tel un despote, mais il vient pour régner tel un Dieu juste et bienveillant. C'est le Dieu que nous avons, un Dieu juste et bienveillant, qui ne vient pas pour nous écraser. Cette paix qu'apporte le Messie fera disparaître les armes de guerre. Il nous est dit les chars, les chevaux, les arcs de guerre. Tout ça, ce sont des armes. Le Messie qui est venu pour apporter la paix. Et c'est l'Éternel qui fera disparaître tout cela. En effet, il est dit, je détruirai. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui fait tout cela. Là, il n'y a pas de convention de Genève. C'est l'Éternel qui fait toute chose. C'est lui, par sa puissance, qui détruit toutes ces armes de guerre. La paix qui est annoncée ici, elle débute dans le pays d'Éphraïm, puisqu'il est dit qu'il enlèvera les chars du pays d'Éphraïm et aussi les chevaux de Jérusalem. En fait, on voit dans le livre des rois qu'il y avait ce conflit entre Éphraïm et Jérusalem. Et en fait, on voit que le Messie vient pour commencer avec une paix qui débute là aussi et qui devient une paix universelle qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ces éléments donc, que l'on a vus ici nous montrent un Messie dont les nombreuses caractéristiques sont présentées avec une cohérence absolument parfaite avec Jésus tel qu'il nous est décrit dans les évangiles. Et j'espère vraiment que cela peut nous encourager à regarder l'Ancien Testament et voir la fiabilité impressionnante de la parole de Dieu. En ce moment, avec quelques frères et sœurs, on fait une formation à l'herméneutique. Et un des principes de l'herméneutique, donc l'herméneutique, ça peut paraître un grand mot, mais finalement, c'est simplement le fait de creuser la parole de Dieu, de voir les vérités qui sont dedans et de pouvoir en tirer la substantifique moelle. Et en fait, dans cette préparation à l'herméneutique, il y a un rappel que la Bible est pleinement cohérente. La Bible est pleinement cohérente. Et lorsqu'il y a quelque chose qui nous paraît étrange dans la parole de Dieu, que nous soyons encouragés à aller chercher l'explication dans d'autres endroits de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu est cohérente, alors elle ne va pas se contredire elle-même. Donc ça, c'était l'entrée du Messie dans le monde et l'entrée du Messie à Jérusalem. Et on arrive à l'annonce d'un roi prêtre. Ça peut paraître étrange, mais là aussi, il y a des éléments qui sont très intéressants. On va prendre, si vous voulez bien, Zacharie chapitre 6, versets 9 à 13. Alors, j'ai conscience qu'on passe d'un passage à l'autre. J'espère que vous n'êtes pas déboussolé par cela. Mais il y a aussi de nombreuses choses qu'on peut voir dans ces différents passages. Zacharie chapitre 6, versets 9 à 13. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu recevras les dons des exilés de Eldaï, de Tobia, de Yedaya. Et tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Je trouve que ce passage est vraiment intéressant. Là aussi, il nous donne des éléments importants pour la compréhension de l'œuvre de Christ et le statut de Christ. Si on replace donc les choses dans leur contexte rapidement, pour le livre de Zacharie, on est dans un contexte après l'exil. Le peuple doit reconstruire le temple, mais il tarde à le faire. Il y a un manque de motivation. Et les prophètes Agé et Zacharie sont envoyés pour les encourager à finir ce temple de Dieu, en apportant bien entendu la parole de l'Éternel. Le peuple, à cette époque, a pour chef civil Zorobabel et a pour grand prêtre Josué. Donc Josué, c'est le nom du grand prêtre ici. Ça n'a rien à voir avec Josué qui a succédé à Moïse. Et en fait, on voit que cette notion du chef civil et du grand prêtre sont deux fonctions qui sont bien séparées. On se rappelle de Saül, d'accord, qui a été puni pour ne pas avoir attendu Samuel et pour avoir offert lui-même des sacrifices. La royauté lui a été retirée. Et aussi d'Ozias, qui a attrapé la lèpre pour avoir offert en sacrifice des parfums sur l'autel des parfums. Donc on voit que les deux fonctions sont bien séparées. On n'est pas roi et grand prêtre. On est soit l'un, soit l'autre. Et Zacharie annonce qu'il faut faire fondre de l'or et de l'argent pour faire une couronne qui est un signe de royauté et qui sera posée sur la tête du grand prêtre Josué. Mais qui Josué préfigure-t-il ? Josué préfigure Christ. Et là, ce n'est pas moi qui fais une interprétation étrange de la chose. C'est carrément dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 3 et au verset 8, il est dit « Maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servez de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. » Dans les prophéties, le mot « serviteur » et le mot « germe » sont rattachés au Messie. Il y a de ce contexte une portée immédiate qui concerne la reconstruction du peuple, la motivation à reconstruire le peuple. Mais il y a aussi une portée messianique. Josué en hébreu est le même nom que Jésus, qui signifie littéralement « Yahweh sauve ». Zacharie chapitre 3, parle d'un serviteur, le germe, de même que Zacharie, chapitre 6. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle aussi le quatrième chant du serviteur qu'on connaît bien, qui est Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. On voit là, déjà, cette présence du germe, cette jeune pousse. Et aussi dans ce passage de Jean, chapitre 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce germe est mort, et il a porté beaucoup de fruits. » Ce germe, donc cette jeune pousse, c'est le Messie. Jésus qui est mort pour nos péchés, comme nous le rappelle ce magnifique texte d'Ésaïe 53. Je n'ai pas fait d'études plus poussées de ce texte, mais on aurait pu le faire. Il est bien connu par tous et il nous rappelle la mort de Jésus-Christ sur cette croix. Ce qu'il a porté pour pouvoir effacer notre péché, pour que nous puissions être justifiés par son action à la croix. Jésus, donc, lors de sa première venue, a porté une couronne d'épines. Lors de sa seconde venue, il portera une couronne de gloire, comme nous le dit Apocalypse, chapitre 19, verset 12. Jésus a commencé comme un germe, comme une jeune pousse, de façon humble. Alors, je me permets juste une petite parenthèse. Parfois, on profite de cette période de Noël pour parler, et c'est bien entendu une bonne chose, de la naissance de Christ. Et on rappelle que Christ est né dans une étable. Mais parfois, on pousse un peu et on va presque dans le misérabilisme pour dire c'est scandaleux, il est né dans des conditions absolument atroces, etc. Je me permets juste une petite remarque. Ça, c'est une maison israélite, donc c'est les données archéologiques qui nous ont permis de trouver ça. Quand on regarde cette maison israélite de l'époque, on voit qu'en fait, à l'étage, la famille et les invités étaient logés, et qu'en fait, en bas, c'est une pièce à vivre. Effectivement, c'est une étable, il y a des animaux, mais c'est surtout une pièce à vivre. La chaleur apportée par les animaux permettait de chauffer la pièce. D'accord ? Et en fait, quand on regarde, quand il y a eu le recensement, Marie et Joseph ont été accueillis dans une maison, il y avait déjà beaucoup de monde. Et quand il leur a dit « vous devrez dormir dans l'étable », on pourrait nous comprendre aujourd'hui qu'en fait, ils étaient simplement en train de dormir dans le salon. Ils n'avaient pas une chambre pour eux, mais ils étaient dans la pièce à vivre. C'est intéressant de le comprendre parce que ça nous permet de ne pas tout miser sur le côté « il est né dans une étable, c'est absolument atroce, etc. » Non, il est né dans un lieu qui est plutôt commun, qui est bien entendu indigne du prince de la paix, du roi des rois. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le misérabilisme là-dessus. Je ferme cette parenthèse. Ce terme de « germe » qui est donné ici, signifie « pousser abondamment ». Et cela représente ce nouveau départ, le nouvel Adam qui est présenté par Paul, celui de qui viendra une multitude. Nous sommes aujourd'hui le résultat de ce germe et de cette pousse. Celui qui est humble, mais juste et victorieux, et celui qui a pu à la fois associer le rôle de grand prêtre en apportant lui-même le sacrifice de sa personne et le rôle de roi. Et ces deux rôles trouvent leur point d'orgue dans la perspective éternelle, conformément à ce que le roi David a annoncé dans le psaume 110, au verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Il y a donc bien une harmonie ici entre les deux fonctions, comme l'annonce Zacharie au verset 13. Il est dit qu'il sera prêtre sur son trône. Il est intéressant de noter que dans le tabernacle et dans le temple, il n'y avait pas de siège pour les prêtres, car leur travail n'était jamais terminé. Ils devaient sans cesse, encore et encore, apporter des sacrifices et des offrandes, parce que chaque sacrifice, chaque offrande, ne permettait pas d'en être exempté pour le reste de sa vie. Il fallait continuer quotidiennement à apporter des sacrifices et des offrandes. Mais là, le Messie peut siéger sur son trône. Lui, il a un trône. Pourquoi ? Parce que le sacrifice qu'il a offert est suffisant une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin d'un nouveau sacrifice. Quand Jésus est mort en sacrifice sur cette croix, cela était suffisant. Et c'était merveilleusement rassurant pour nous aujourd'hui de savoir que le sacrifice de Christ est suffisant pour nos fautes. Notre Sauveur a déjà tout accompli à la croix. Et j'aimerais que l'on réalise ça ce matin. Ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, ce n'est pas pour compléter le sacrifice de Christ, qui se suffit en lui-même, mais c'est pour honorer ce sacrifice. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel, au verset 12. Certaines versions ont « sous ses pas, tout germera, il bâtira le temple de l'Éternel ». Rappelons-nous que les prophéties ont deux portées, une portée immédiate et une portée plus lointaine. Les constructeurs de l'époque ont dû se sentir encouragés quand on leur a dit que le germe va construire le temple de l'Éternel. Ils ont dû se dire « on n'est pas tout seul, on peut y aller, on y va, on construit ». Mais pour nous aujourd'hui, ils revêtent un sens plus complet. Le mot qui est utilisé, alors encore une fois, ça ne vient pas de moi, je rappelle que je ne connais pas l'hébreu, mais en cherchant dans des commentaires de ce texte, j'ai pu apprendre que le mot qui est utilisé pour temple, c'est le mot « baït » en hébreu. Et ce mot, en fait, signifie littéralement une maison, ou aussi ici la maison de Dieu. Et probablement que c'est le même terme qui a été utilisé en araméen par Jésus, quand il a parlé à Pierre en Matthieu chapitre 26, verset 18, et qu'il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, j'édifierai mon église ». Le fait qu'il soit dans le champ lexical de la construction laisse penser que le mot « église » qu'il a utilisé était « baït ». Et en fait, ça nous permet de réaliser, sur ces différents éléments de la prophétie qui nous est donnée ici, que Jésus, en fait, va construire son Église. Il en est la pierre angulaire. Et je trouve exaltant de voir à quel point cette prophétie est riche de sens. Par quelques mots, il n'y a pas beaucoup de versets dans cette prophétie, mais par quelques mots, l'Ancien Testament nous révèle que Jésus sera à la fois grand prêtre et roi, qu'il sera cette jeune pousse sur laquelle des chrétiens du monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pourront se rattacher, et qu'il bâtira son Église. Cela nous rappelle aussi que Jésus règne et que pour l'éternité, il sera en train de siéger sur son trône. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je lis ces passages, des passages comme celui-là, je suis subjugué de la façon dont Dieu nous révèle Jésus-Christ, avec tous ses détails, et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Bien entendu, certains éléments ne sautent pas aux yeux de prime abord, et c'est vraiment le fait d'avoir approfondi ces textes qui m'ont permis modestement d'en gratter la surface, mais cela m'encourage à me plonger dans la lecture de la parole de Dieu, encore et encore, même dans l'Ancien Testament qui n'est pas toujours facile à aborder, pour pouvoir voir ce que l'Ancien Testament me dit sur Jésus-Christ. Essayez d'avoir un regard neuf, un esprit bien disposé, afin que je puisse toujours en apprendre davantage sur ce merveilleux Sauveur, qui n'est pas apparu de nulle part, mais qui était là dès l'origine. Je rappelle cette phrase de John MacArthur. L'Ancien Testament préfigure Christ. Les évangiles l'incarnent, les actes le proclament, les épîtres l'expliquent, et l'Apocalypse le glorifie ou l'exalte. Ce Sauveur qui savait depuis toujours qu'il aurait à se sacrifier pour moi, pour vous. Ce Sauveur qui savait qu'en tant qu'homme, il allait endurer de la souffrance, parce que la souffrance est rattachée à notre condition d'humain. Il savait qu'il ne serait pas épargné, mais il savait aussi qu'en tant que Dieu, il était le seul à pouvoir payer le prix de nos péchés. Eh bien, il n'a pas reculé. Pourtant, tant d'hommes continuent aujourd'hui de le rejeter. Je finirai simplement en rappelant que Noël, cette période que nous vivons, n'est pas seulement une fête de cadeaux et de bonhommes à barbe blanche. Ce n'est pas seulement une période de chocolat et de dinde. C'est avant tout un rappel que notre Sauveur s'est révélé aux hommes depuis toujours, qu'il est venu, qu'il a accompli son rôle de sacrificateur et qu'il règne pour l'éternité.